Oh, c'est nécessaire? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus écouter le docteur François Damas, que nous avons le très grand plaisir d'accueillir ce soir. Alors, monsieur Damas est chef de service en soins intensifs au centre hospitalier régional de la citadelle de Liège. Il est président du comité d'éthique de ce même hôpital et il est membre de la commission fédérale d'évaluation et de contrôle de l'euthanasie en Belgique. De plus, il est auteur d'un ouvrage récemment publié qui s'intitule, vous le voyez là, « La mort choisie, comprendre l'euthanasie et ses enjeux ». C'est en lisant cet ouvrage que nous avons vivement souhaité le rencontrer et vous le faire rencontrer. Et comme dirait Martin Winkler, qui a préfacé l'ouvrage, c'est un de ces livres qui parle avec intelligence et humilité de ce qui constitue l'humanité du soin, le respect, le partage, la fraternité. Je n'aurais pas mieux dit, donc j'ai pris Monsieur Winkler pour le dire. Donc Monsieur Damas va vous parler de son expérience professionnelle en termes de fin de vie, il va vous parler de l'euthanasie, de son aide aux patients. Je vais donc vous laisser en sa compagnie pour vous parler de tout ça. Je tiens à remercier auparavant l'Espace Mendès France, son directeur, ses collaborateurs, pour la qualité de leur accueil et le soutien logistique qu'ils nous fournissent à chaque conférence. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Monsieur Damas. Vous pourrez bien sûr, après son intervention, poser les questions que vous souhaitez. Je précise que la librairie Gibert m'a confié quelques exemplaires de son ouvrage, qui est là. Donc, s'il vous intéresse, vous pouvez vous l'acquérir et même demander que M. Damas vous le dédicace. Je rappelle aussi que l'Espace Mendès France enregistre cette conférence et que vous pouvez la retrouver sur le site de Mendès France. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Madame Casado. Bien, merci d'être venue m'écouter ce soir. Merci donc à l'association de la DMD et à l'Espace Mendès France d'organiser en effet cette soirée. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces quelques kilomètres pour vous parler ce soir. Mais je vous parle comme un simple clinicien, comme un simple médecin qui a une petite expérience d'application des lois belges depuis 2002. Les lois belges ne sont pas très différentes de celles qui existent en France. Elles se distinguent uniquement par une possibilité qui n'existe pas encore en France, c'est la possibilité d'un geste euthanasique. Mais si vous le voulez bien, avant de m'engager sur ce thème un peu différent et très fortement controversé, j'aimerais bien d'abord m'arrêter sur les deux autres possibilités qu'offrent les lois françaises et belges actuelles d'un accompagnement actif médical de fin de vie. Je dis bien de fin de vie difficile, évidemment. Toutes les fins de vie ne sont pas nécessairement difficiles. Un certain nombre de fins de vie, d'ailleurs, se passent rapidement et très brutalement et très, très, très rapidement. On n'a pas beaucoup le temps d'agir. Mais il y a toute une série de fins de vie qui s'annoncent et qui peuvent donc être accompagnées sur le plan médical. Un certain nombre d'entre elles se passent doucement, simplement, parfois sereinement, mais sans souffrance particulière. Et donc, la tâche du médecin est réduite à pas grand-chose dans ces cas-là. Je veux, ce soir, me focaliser sur les fins de vie difficiles qui justifient une intervention médicale. On vous a dit que je travaillais dans un service de soins intensifs de réanimation. C'est mon métier. Je fais de la médecine intensive, c'est-à-dire donc que je travaille dans ces services qui sont capables de soutenir des fonctions vitales défaillantes avec tous les moyens médicaux modernes, les respirateurs, la dialyse, les processus de soutien de fonctions cardiaques majeures, les contrepulsations, les circulations extracorporelles, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qui est relativement nouveau quand même dans la médecine, qui n'existait pas avant les années 70 du siècle passé, et ce qui a donné lieu à l'image de ce qu'on a appelé l'acharnement. ou curieusement l'appeler l'acharnement thérapeutique, ça ne devrait pas se dire thérapeutique, puisque ce qui est thérapeutique est normalement fait dans l'intérêt du patient pour lui apporter quelque chose de bon. Ici, un acharnement qui n'est pas thérapeutique. Enfin, c'est passé dans la locution habituelle, on parle de l'acharnement thérapeutique. Nous avons été, dans les soins intensifs et les services de réanimation, ceux qui ont été à l'origine de la critique majeure qu'on a exercée vis-à-vis des médecins, de faire de la médecine aveugle et de prolonger des vies de manière indigne, ou en tout cas de manière aveugle, et en prolongeant donc les souffrances. Bien. La première décision médicale de fin de vie, le DMFV qu'on voit parfois dans certaines publications, le premier type de décision médicale de fin de vie qui intéresse effectivement surtout les patients ou les personnes malades qui sont dans les services dits de réanimation, sont des décisions qui concernent l'arrêt ou l'abstention de traitement de soutien de fonction vitale. Autrement dit, l'arrêt ou l'abstention de traitement susceptible de prolonger la vie. Effectivement, quand les patients ou les personnes malades sont dans des services, dans des situations qui sont devenues tout à fait désespérantes, sans espoir d'amélioration, sans espoir de récupération, que tous les traitements qu'on a mis en route manifestent après quelques jours qu'ils sont inefficaces à renverser la situation, eh bien, le médecin peut proposer une abstention ou un arrêt de traitement de ces traitements dits de soutien de fonction vitale. Et s'il applique cette décision, il est évident que la personne va décéder rapidement de sa défaillance. Mais l'application de cette décision va influencer évidemment le moment de sa mort. C'est une des premières conséquences dont il faut bien se rendre compte. Qu'en soins intensifs, lorsque nous appliquons des raisonnements qui proportionnent le traitement en fonction de l'individu que nous avons devant nous, pour que nous apportons toujours un bénéfice à ce qui lui est nécessaire, la justification, je vous le rappelle, des actes médicaux repose sur deux grands principes. Le fait que nous soyons en train d'apporter quelque chose de bénéfique au patient, nous lui faisons du bien, c'est le principe de bienfaisance. Et puis, il y a bien sûr le fait que la personne à qui on applique ces traitements consent à recevoir ces traitements. C'est le consentement éclairé, normalement, du patient. En soins intensifs, nous avons malheureusement souvent des patients qui ne sont plus capables de donner leur avis. Ils sont dans un état d'inconscience le plus souvent à cause de la maladie, à cause de la défaillance ou à cause des médicaments qu'on leur administre pour évidemment soulager les souffrances qu'ils auraient s'ils étaient parfaitement conscients, reliés à des respirateurs, à des sondes, etc. Vous imaginez bien le tableau. Lorsque nous décidons d'un arrêt de traitement ou d'une abstention de traitement, c'est un peu la même chose. Nous respectons bel et bien les deux principes que je viens de citer. Nous respectons la bienfaisance, parce que si nous maintenons un traitement de manière aveugle et nous imposions nos vues aux patients, ce serait vraiment de l'acharnement et nous n'aurions plus la première justification de notre traitement, nous apportons plus quelque chose de positif qui lui était nécessaire. Et nous pouvons aussi être en porte-à-faux avec le second principe, qui est celui du consentement, si la personne n'a pas voulu être maintenue dans un état de ce genre. Nous avons des patients qui refusent des trachéotomies, qui refusent d'être intubés, qui refusent d'avoir de la dialyse, qui refusent des transfusions, par exemple, comme des personnes qui sont témoins de Jéhovah. Vous savez que les témoins de Jéhovah refusent la transfusion. Nous sommes tenus de respecter les volontés clairement exprimées des patients. En soins intensifs, évidemment, vous allez me dire de nouveau que ces patients sont souvent pas capables de donner leur avis, sauf s'ils ont fait des déclarations anticipées, des refus de traitement, sur lesquels nous pouvons revenir dans la discussion tout à l'heure, si vous le voulez bien. Je ne vais pas m'étendre là sur ces déclarations qu'on peut faire, prévues par les lois belges et françaises. Il n'est pas prévoir tout à fait les déclarations anticipées de refus de traitement. C'est quelque chose qui est très peu connu, aussi bien en Belgique qu'en France, et très peu appliqué. Mais lorsque nous sommes en train de décider si nous faisons de l'acharnement, nous référons aux référents naturels des patients que sont les proches et la famille. La loi Eti est tout à fait explicite, la loi belge également. La décision médicale ne peut pas être prise uniquement du côté des médecins. Ils doivent en faire référence à la famille, aux proches. Il y a une hiérarchie d'ailleurs des personnes qui sont impliquées dans ces décisions. C'est d'abord habituellement le conjoint, et puis s'il n'y a pas de conjoint, ce sont les enfants majeurs. S'il n'y a pas d'enfants majeurs, ce sont les frères et sœurs majeurs ou les parents, s'ils existent toujours. Et donc, c'est une décision qui est prise en concertation avec le patient, éventuellement, ou avec la famille. Alors, je vais prendre un exemple pour bien préciser les conséquences de ce genre d'aventure qui mène les gens, les patients parfois dans des situations nécessitant leur admission en service de réanimation. Un exemple, l'exemple typique, il y en a un qui défraie la chronique actuellement en France, ce sont des patients qui sont plongés dans des états d'inconscience prolongés ou irréversibles, les états dits végétatifs. Les états végétatifs, ce sont ces patients qui sont éveillés sans être conscients. Ils ouvrent les yeux, ils sont réactifs à certaines choses, mais ils demeurent malheureusement inconscients. Et cet état peut être transitoire, bien sûr, mais ils peuvent parfois être définitifs après un certain nombre de semaines, de mois ou d'années d'observation. Ce sont bien les services intensifs et de réanimation qui ont produit ou qui ont fabriqué ce genre de situation. Autrefois, les personnes qui avaient une lésion cérébrale majeure en mouraient nécessairement. Mais maintenant qu'ils sont capables d'être pris en charge pendant le service, ils survivent à leur lésion primaire. Et puis, on fabrique des patients qui sont malheureusement dans des situations extrêmement déplorables. Eh bien, on peut, et la loi l'accepte tout à fait bien, aussi bien en France qu'en Belgique, je me répète, on peut décider de faire des arrêts de traitement de soutien de fonction vitale lorsqu'on pense que pour ces patients, il n'y a plus aucun espoir et l'avenir n'est plus qu'une vie sans communication possible. Dans les cas où nous avons pris le temps d'observer ces patients pour voir s'ils ne récupéraient pas, ils ont été délivrés depuis longtemps du respirateur. Ils ont été délivrés depuis longtemps de toutes les fonctions vitales. Il ne leur reste plus que l'alimentation et l'hydratation qui leur est devenue artificielle, puisqu'ils ne savent plus se nourrir eux-mêmes. Ils sont nourris par une gastrostomie habituellement, ou une sonde gastrique éventuellement, si on n'a pas mis, on a pris la mesure de faire une gastrostomie. Eh bien, cette alimentation artificielle est considérée comme un traitement de soutien de fonction vitale. Et donc, les médecins peuvent proposer, devant l'absence d'espoir de récupération, d'arrêter ces traitements de soutien de fonction vitale, qu'est devenue l'alimentation. Cette décision, elle va normalement être prise ou proposée par des médecins en collégialité. Souvent, ce n'est pas un seul médecin qui prend la décision. Il va la prendre avec la famille. Et donc, on a régulièrement des familles qui vous disent « D'accord, ça ne sert plus à rien, ça n'a pas de sens de continuer. On arrête l'alimentation et l'hydratation. » Et on laisse s'éteindre gentiment la personne qui n'a plus aucun espoir de récupération. D'autres familles, par contre, quand le patient n'a pas pu s'exprimer lui-même par des déclarations anticipées, bien sûr, puisque c'est toujours la vie du patient qui compte, mais quand le patient n'est plus capable d'émettre son avis propre, c'est évidemment l'entourage qui doit essayer de trouver l'expression de la volonté du patient. Et si l'entourage dit, pour nous, ce ne serait pour lui, il n'est pas question qu'on arrête les traitements de ce genre. Pour nous, en plus, ça a du sens de continuer à l'alimenter, à l'hydrater, et nous voulons continuer parce qu'éventuellement, nous ne pouvons pas croire ce que vous nous dites. Nous ne pouvons pas admettre qu'il n'y a pas d'espoir. Eh bien, on aboutit, dans ces cas différenciés, à appliquer des décisions différentes. J'insiste bel et bien sur, dans le cas particulier des décisions lourdes de réanimation, le médecin ne détient pas la vérité. La vérité, elle est à construire avec le patient, si c'est possible, avec l'entourage, sûrement, quand le patient n'est plus capable de donner son avis. Et donc, on a des décisions qui varient selon les valeurs des patients et des familles, selon leurs références culturelles, religieuses éventuellement, philosophiques. Et on doit appliquer des décisions individuelles. C'est souvent mal compris par le personnel soignant, qui ne comprend pas pourquoi on n'est pas à appliquer de manière équitable, juste, la même chose pour tout le monde. Je crois que les nouvelles lois qui sont édictées dans nos pays respectifs permettent justement, ou nous imposent justement, une modification de notre façon de penser en tant que soignants. Nous ne sommes plus là uniquement pour imposer ou décider ce qui est bien pour le patient, ce qui faisait référence au paternalisme médical d'autrefois. Nous sommes là pour confronter notre compétence de soignant et nos propositions que nous pouvons faire en toute conscience et en toute connaissance de cause à la vie du patient lui-même ou de ses proches. Néanmoins, je reviens sur la décision qui serait d'interrompre l'alimentation dans ces cas-là ou les autres fonctions vitales comme un respirateur ou comme une dialyse. Nous sommes amenés à arrêter des dialyses ou des respirateurs. Ce sont des choses qui, évidemment, contrairement à l'arrêt de l'alimentation et de la natation, vont provoquer des fins de vie extrêmement rapides. Arrêter l'alimentation et l'hydratation chez quelqu'un fait qu'il va s'éteindre en plusieurs jours. Par contre, arrêter un respirateur chez quelqu'un qui est en défaillance respiratoire, la fonction respiratoire est encore bien plus essentielle à la vie que la fonction digestive. Et ça va amener un patient à décéder très rapidement. Et nous ferons en sorte, en soins intensifs, et évidemment d'administrer des médicaments pour que ce patient ne souffre pas à l'arrêt du respirateur. Il ne faut pas qu'il suffoque, il ne faut pas qu'il meure d'asphyxie. Donc, nous faisons en sorte que ces patients soient suffisamment endormis, sédatés, comme je vais venir sur la deuxième décision de fin de vie. On les anesthésie en réalité. On leur administre des médicaments en quantité suffisante pour qu'on soit sûr, nous en tant que médecins et la famille, en tant que proche qui accompagne la décision, que ces patients ne souffrent pas. Et dès lors, quand on applique la décision, le patient meurt, dans 50% des cas, dans l'heure de l'application de la décision. Et dans 100% des cas, dans la journée de la décision. Ça, c'est la pratique des soins de réanimation, des services de réanimation. Ça se fait partout comme ça, en Europe occidentale, et en Amérique du Nord. Un peu moins, peut-être dans certains autres pays, au Japon, ça se pratique un peu moins de cette manière. Et vous avez un exemple relaté dans la presse qui a démontré que l'ancien Premier ministre d'Israël, Ariel Sharon, n'a pas bénéficié de la décision d'un arrêt de traitement puisqu'il a été maintenu artificiellement en vie pendant plusieurs années. Parce que pour les médecins et pour la religion juive, on peut s'abstenir de traitement, mais on ne peut pas les arrêter quand on les a commencés. Or, il avait été mis au respirateur, il est resté donc longtemps de manière prolongée avec ses soutiens de fonction vitale. Bon, fermons la parenthèse si vous le voulez bien. Il y a donc deux conséquences tout à fait nettes. Je vous ai dit d'abord la variabilité de l'application des décisions en fonction de la décision collégiale que nous prenons avec les représentants familiaux. Et lorsque nous décidons d'un arrêt, c'est que nous programmons effectivement les décès. Nous savons que le patient va mourir tel jour. Et nous programmons tel jour parce que cela convient à la famille. Il faudra attendre que la famille soit là pour accompagner la personne dans ses derniers pas. Permettre à ceux-ci de lui dire un dernier au revoir. Et nous attendons parfois le retour de l'étranger, des membres de la famille, pour leur permettre justement d'être là. Et nous avons donc pris un rendez-vous le vendredi matin à 10h. Nous savons que nous allons arrêter le respirateur et nous savons qu'à midi, il sera sans doute décédé. Donc, caractéristique d'une programmation de décès. C'est ce qui a été appelé l'euthanasie passive, autrefois. On ne devrait plus appeler ce mot euthanasie passive. C'est vrai qu'en appelant euthanasie passive, on reconnaît effectivement que la décision médicale a influencé le moment du décès. Mais on ne devrait plus appeler le mot euthanasie. Pourquoi ? Parce que l'euthanasie devrait concerner un autre acte que nous allons voir à la fin d'exposé, si vous le voulez bien, et qui reste controversé, critiqué, interdit, et pour lequel pas mal de médecins ou de confrères pourraient s'opposer à un tel acte. Or, arrêter un respirateur qui est devenu inutile, c'est quelque chose qui est maintenant admis par toutes les instances, qu'elles soient déontologiques, juridiques, professionnelles ou autres, même religieuses, même philosophiques. Il n'y a plus aucune personne qui viendrait imposer, ici en France ou en Belgique, le maintien artificiel de traitement de fonction vitale alors que ça n'a plus de sens et que ça n'a plus d'intérêt pour le patient. Pourvu, je le répète, que les décisions évidemment soient collégiales et prises en concertation et en toute transparence. Il y a bien sûr des règles à respecter pour que les choses soient faites correctement. Ok ? Ça, c'est le premier type de décision médicale de fin de vie. Ce n'est pas négligeable. La majorité des décès dans les hôpitaux, dans nos pays outillés, se passe en soins intensifs. Ce qui veut dire qu'à peu près 15% des décès en France, en Belgique, font suite à une décision d'arrêt de traitement de fonction vitale. 15%, ça fait 75 000 morts par an ici, en France. C'est peu banal. La deuxième décision médicale de fin de vie, c'est quoi ? Quand nous avons quelqu'un qui est effectivement dans sa phase terminale, qui est dans une fin de vie difficile, qui est entré dans sa phase dite agonique, quand il a passé la frontière de l'évolution de sa maladie, on sait qu'il va mourir. Il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Il n'y a plus moyen de changer de stratégie thérapeutique en disant « Oui, on va encore faire une chirurgie. Oui, non, on va refaire une chimiothérapie. Non, on va encore faire ceci. » Non, il n'y a plus de moyen de faire autrement que d'accompagner une fin de vie qui se passe mal, avec des souffrances qui sont dites réfractaires. Quand on parle de souffrance, on pense toujours, et les journalistes mettent toujours la douleur en avant. Et on dit « On sait toujours soulager la douleur. » La souffrance n'est pas limitée à la douleur en fin de vie. C'est un symptôme réfractaire parmi les minoritaires par rapport à tous les autres. Quels sont les symptômes réfractaires qui accompagnent une fin de vie difficile, souvent en cas de cancer du poumon ? C'est la dyspnée, enfin, c'est la sensation d'asphyxie, le manque d'air, on ne sait pas respirer. Ça ne se soulage difficilement. Ce sont les nausées, les vomissements continuels. Vous imaginez la personne qui vomit, c'est épouvantable. C'est les hallucinations, l'agitation, les hallucinations, le délire. Ce sont les symptômes qui ne sont pas maîtrisables par des traitements normaux ou habituels. Qu'est-ce que nous avons comme moyen qui nous reste alors pour que ces agonies ne se passent pas dans nos si affreuses situations ou conditions? Mais nous avons des moyens d'utiliser des médicaments de type anesthésiant. Nous avons des médicaments qui permettent de diminuer la conscience du patient pour soulager ses souffrances. Le but n'est pas de rendre inconscient le patient, c'est le moyen. Le but, c'est de soulager la souffrance. Et on va adapter notre traitement de sédation au soulagement des souffrances. Mais quand les souffrances sont très importantes, on ira jusqu'à l'anesthésie générale. On ira à des posologies, à des quantités de médicaments administrés qui plongent le patient dans un état d'inconscience profond, de type anesthésie générale. Ça a quoi comme conséquence ? Deux conséquences importantes. C'est qu'on perd la communication avec le patient quand celui-ci est dans un sommeil. Les soignants utilisent des mots qui ne sont pas agressifs, qui sont plus doux. On dira qu'il est, qu'on en plonge dans un sommeil, qu'il dort. En réalité, il est dans un coma médicamenteux. Si nous devons appeler un chat, c'est une anesthésie. Une anesthésie, c'est un coma médicamenteux. Et qu'est-ce que ça implique comme conséquence? Outre le fait qu'on arrête la possibilité de communiquer avec le patient, c'est qu'évidemment, si ce coma médicamenteux est profond, on va interférer avec toute une série de fonctions vitales, l'alimentation, la respiration, et donc on va précipiter, en quelque sorte, la mort. C'est une des possibilités de la sédation de fin de vie. Ce n'est pas nécessairement une conséquence systématique. Beaucoup de soignants et de médecins qui travaillent dans des soins palliatifs en particulier démontrent par plusieurs études que cette pratique de sédation n'accélère pas la mort. Au contraire, pour certains d'entre eux, ça prolonge la vie, puisque le patient qui dort est soulagé, souffre moins, consomme moins de calories, fait moins d'efforts, et donc il va être endormi pendant des périodes plus prolongées que si on l'avait laissé souffrir sans le soulager par cette méthode. Mais je pense que s'engager dans ce type de raisonnement amène à une impasse. Je précise ma pensée. Lorsque un médecin se trouve devant un patient qui est effectivement dans sa phase terminale, j'ai bien précisé le contexte. Nous sommes dans une phase où la personne va mourir, même si c'est dans quelques jours. Mais on sait bien que c'est irréversible. Le délai est proche. Une semaine, deux semaines maximum. Et que cette phase se passe mal, au point qu'on décide d'utiliser des médicaments sédatifs, on ne doit plus se poser la question de savoir si on raccourcit la vie ou pas. C'est l'agonie qu'on abrège, éventuellement. Ce n'est pas la vie qu'on raccourcit, c'est l'agonie qu'on abrège. Et on ne doit plus se poser la question de savoir si on l'abrège ou pas. Notre but, c'est que la dernière phase se passe dans de bonnes conditions, pour le patient d'abord, pour la famille ensuite, et aussi pour les soignants. Parce que le malade ne meurt pas seul, il meurt entouré de ses proches. Et une famille qui accompagne quelqu'un qui est mis sous coma médicamenteux pendant 1, 2, 3 jours, ça va. Parce qu'il est bon de pouvoir avoir du temps pour accompagner l'être cher encore quelque temps. C'est bon, c'est bien. Mais quand ça dure, ça a très rapidement plus aucun sens. Et si la souffrance de la famille devient telle, alors que le patient semble confortable, pour moi, il est tout à fait justifié qu'on soit amené à augmenter les doses pour que les situations ne se prolongent pas de manière épouvantable pour ceux qui les accompagnent. Je sais que mes confrères me disent toujours « ce n'est pas la famille qu'on soigne, c'est le malade ». Mais je m'oppose à cette idée simple. Personnellement, c'est mon point de vue personnel que je vous donne là devant vous, mais ce n'est pas un malade seul qu'on soigne, c'est un malade qui meurt effectivement. Et nous veillons à ce que cette mort soit la meilleure possible pour l'entourage, parce que c'est l'entourage qui va vivre, qui doit faire son deuil. Et si cette mort ne s'est pas bien passée, le deuil sera, je pense, beaucoup moins facile à traverser. Alors, un exemple caricatural, de nouveau rapporté dans la presse française récente. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense que c'est dans Libération que ça a été relaté. L'expérience, et je vais prendre de nouveau une situation un peu limite, mais qui est vraiment très bien, qui illustre bien mon propos. C'est l'exemple des services de néonatologie. Vous savez qu'en néonatologie, naissent ou sont pris en charge des enfants, malheureusement, qui ont des lésions cérébrales extrêmement sévères, majeures, graves, qui empêchent tout espoir d'une vie correcte ultérieure. C'est de nouveau l'exemple d'un état végétatif que nous fabriquons en soins intensifs adultes. Ici, c'est l'exemple des états végétatifs de nouveau-nés. La loi, Venetti, la loi en Belgique permet de nouveau que l'équipe soignante en collégialité, en prenant les précautions d'usage pour qu'un pronostic aussi mauvais soit vraiment quelque chose d'appuyé sur des données vraiment lourdes et concrètes, lorsque l'équipe médico-infirmière pense que l'espoir est perdu et qu'il n'y a vraiment aucune possibilité de récupération ou d'amélioration ou d'espoir de développement de cet enfant, en accord avec les parents, bien sûr, les parents sont évidemment informés et donnent l'accord d'arrêter l'alimentation et l'hydratation. De nouveau, la caricature de ce que je signais tout à l'heure, mais ça se fait en œnotologie. De nouveau, dans les cas rapportés dans la presse, on n'a pas voulu faire en sorte d'influencer les moments de la mort, puisqu'on a voulu respecter l'adage, ni hâter, ni retarder la mort. Et donc, on a simplement fait un arrêt de l'alimentation et de l'hydratation. Les familles étaient habituellement extrêmement satisfaites qu'on n'ait pas précipité les choses, qu'on n'ait pas injecté des médicaments comme ça sans qu'on leur dise à leur insu, comme ça se faisait autrefois quand on faisait ça dans la dissimulation. Les lois actuelles permettent d'agir au grand jour et donc les décisions sont prises vraiment en toute transparence. Elles sont contentes donc de pouvoir accompagner l'enfant. Mais lorsque l'évolution fait en sorte que ça ne dure pas un ou deux jours ou trois jours, comme elle le tolère facilement, mais que ça dure pour certains d'entre eux 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 jours, l'enfant est momifié. Ils ne reconnaissent plus leur petit. C'est un calvaire. Ils l'ont abandonné depuis longtemps. La famille qui était là tout près pendant les deux, trois premiers jours est rentrée chez elle, ne veut plus assister à cette abomination. Et donc, quand on interroge M. Donetti pour dire « A-t-on appliqué correctement votre loi ?», il dit « Non, on n'a pas appliqué correctement ma loi. Il fallait injecter des médicaments pour que les choses se passent à un rythme plus humain. » Donc, c'est quelque chose qui est prévu dans les lois belges et françaises, je me le répète, mais qui est mal appliqué, mal connu. C'est aussi valable chez moi que chez vous. Je ne veux pas être donneur de leçons. Je précise bien ma position, la position que j'occupe. Donc, nous avons la possibilité actuelle, grâce aux nouvelles lois, d'avoir un accompagnement médical actif des fins de vie, meilleur qu'auparavant. Meilleur qu'auparavant, pourquoi ? Parce que ça nous autorise à injecter des médicaments en connaissance de cause, en sachant que nous influençons le moment du décès, et ceci n'est pas de l'euthanasie, mais c'est de la médecine bien conduite, normale, entre guillemets. C'est nouveau parce qu'on le fait en toute transparence. Autrefois, ce sont des décisions médicales ou des applications de décisions que nous faisions souvent sans en parler. Les fameux cocktails lithiques, que vous avez certainement entendu parler dans les années 60, où on branchait des perfusions à l'insu des familles, et puis voilà, on annonçait après que le patient s'était éteint sans souffrance. Mais personne n'avait été prévenu, et il n'y avait pas eu d'accompagnement en vrai. Tandis que les possibilités offertes maintenant par les lois permettent d'appliquer des décisions en toute concertation, en toute transparence, c'est ce qui veut dire qu'on accompagne correctement les fins de vie, en permettant aux familles d'y assister et de participer au processus, à la procédure en tout cas. La sédation en fin de vie est une technique qui est ancienne, mais qui se généralise maintenant, de plus en plus. Dans les pays où l'euthanasie existe, c'est un mode de fin de vie qui se développe de manière exponentielle. Aux Pays-Bas, on a à peu près 25% des décès qui se font accompagnés d'administration de médicaments à dose suffisamment élevée pour qu'on puisse penser que le moment de la mort a été influencé. 25%, si c'était le cas en France, ça vous fait plus de 100 000 décès par an. C'est ce qu'on a appelé aussi l'euthanasie indirecte, parce que on justifiait par là l'action médicale en disant qu'on injecte des médicaments pour soulager le malade, mais l'effet secondaire, c'est de précipiter un peu la mort. Je me répète, je pense que faire référence à la loi du double effet ou au fait que l'intention n'est pas d'accélérer la mort ou pas, ce n'est pas une piste adéquate. C'est plutôt une impasse. Les soignants doivent faire en sorte que la fin de vie se passe dans de bonnes conditions, au prix de l'administration de médicaments, parfois aux doses, et de temps en temps, comme pour le cas des enfants que je viens de vous relater, en ayant explicitement dans l'intention que cette procédure s'arrête en temps voulu. La qualité et les bonnes conditions d'une fin de vie impliquent, je pense, dans un certain nombre de cas, pas toujours, dans un certain nombre de cas, que l'on accélère le processus morbide, parce que sinon celui-ci dure trop longtemps et devient épouvantable pour tout le monde. Et c'est ce que nous faisons effectivement en soins intensifs adultes. Il ne faut pas se cacher la vue. Lorsque nous décidons d'un arrêt de traitement, d'un arrêt de respirateur, nous ne faisons pas, comme certains l'ont marqué dans certains articles d'éthique médicale, qu'il faut essayer de voir si le patient ne va pas quand même respirer tout seul et voir s'il ne pourrait quand même pas survivre sans respirateur. Si nous pensons effectivement qu'il n'y a plus aucun espoir et que bien sûr nous en avons référé avec la famille et le médecin traitant et que ce n'est pas une décision du lumi d'un assistant à minuit le jour d'une garde, bien sûr, ce n'est pas ça. C'est une décision mûrement réfléchie. Nous faisons en sorte que cette personne ne soit pas soumise à un essai d'asphyxie éventuel. Nous administrons des médicaments préventivement et nous extubons les patients si nécessaire sous anesthésie générale. Voilà les deux décisions médicales de fin de vie permises par nos lois. Elles concernent un grand nombre de situations, un très grand nombre de situations. Ce sont donc de très bonnes lois qui permettent de résoudre pas mal de situations, qui permettent d'accompagner au mieux et correctement une grande majorité de fins de vie difficiles. Il reste une troisième type de décision médicale ou de décision de fin de vie qui est très particulière. Et j'y viens, bien sûr. C'est l'euthanasie ou le geste euthanasique. Là, on va parler d'euthanasie. On ne parle plus de décision d'arrêt de traitement, on ne parle plus de sédation de fin de vie, même si on précipite la mort par nos médications. Les deux premières catégories ont ceci en commun, je l'ai dit, d'être capables d'influencer le moment de la mort, mais elles ont ceci en commun qu'elles doivent bien sûr être prises en concertation transparence. Elles ont ceci en commun, j'insiste, c'est que ce sont des décisions médicales. Nous avons en tant que médecins la possibilité et l'autorité dans nos prérogatives de proposer un arrêt de traitement ou une sédation quand les choses ne vont pas bien. Nous pouvons prendre ça d'initiative, même si nous avons parfois l'initiative un peu forcée, et cela est bien, par le patient lui-même qui n'en peut plus et qui voit bien qu'on endorme parce qu'il n'en peut plus de ne pas mal respirer. Endormez-moi, docteur. Ça peut bien sûr le malade lui-même qui le réclame. Ou arrêtez-moi ce respirateur, je ne veux plus continuer comme ça. Ça peut être le malade qui le réclame. C'est la position évidemment la plus légitime. Ça peut être aussi les soignants qui, constatant des situations épouvantables, vont demander au médecin de prescrire une sédation. Ou ça peut être la famille. Et je pense que là, nous avons en tant que soignants également une oreille à tendre vers cette famille qui dit « nous vivons ça très mal et ce patient manifestement est en souffrance, nous ne voulons pas que ça continue ». Souvent, ces interventions sont malheureusement très mal tolérées par les soignants et je pense qu'ils ont tort dans 95% des cas. Il faut écouter la famille et admettre que celle-ci est un relais légitime de la souffrance du patient. Bien, je ferme ma parenthèse. Je disais donc que malgré ces interventions des différents acteurs, les deux décisions sont des prérogatives médicales. La troisième décision, qui est un geste euthanasique, n'est plus une décision médicale. Et ça, c'est aussi quelque chose de... C'est une idée avec laquelle j'aimerais que vous rentriez chez vous ce soir. Quand on parle d'euthanasie, ce n'est plus une décision médicale, c'est une décision du patient lui-même, exclusivement de la personne malade. Et ici, on ne parle plus d'intervention des soignants, l'intervention des familles, l'intervention du docteur. Ce n'est pas une proposition thérapeutique, une euthanasie. Ce n'est pas une possibilité qu'on peut proposer aux patients. On doit évidemment se déclarer dans l'impossibilité de penser une chose pareille. C'est le patient lui-même qui va nous demander peut-être de mettre fin à ses jours parce que la situation pour lui est devenue intolérable et que ça n'a pas de sens de continuer de toute manière et qu'il réclame notre aide. Dans la position donc qu'occupe un médecin qui rencontre un patient qui fait une demande d'euthanasie, c'est ce que nous avons appris en Belgique depuis que nous appliquons la loi. Dans la relation qu'un médecin a avec son patient qui vient lui faire une demande d'un geste euthanasique, la position est s'inverse par rapport à celle que nous connaissons habituellement dans la relation d'un médecin vis-à-vis d'un malade. La relation normale, c'est le médecin qui décide et qui propose et c'est le malade qui consent. Quand on en vient à une procédure qui aboutira peut-être éventuellement à un geste euthanasique, c'est le malade qui décide et c'est le médecin qui consent. C'est essentiel de comprendre ça pour commencer à juger ce qu'est un geste euthanasique. Parce que nous avons tous dans la tête une définition, une idée de ce qu'est une euthanasie. C'est un vieux mot, évidemment. C'est un vieux mot qui a des connotations épouvantables sur le plan historique. Mais maintenant, dans les pays qui ont légiféré sur cet acte particulier, il faut prendre le sens du mot dans l'acception légale du terme en Belgique, en Pays-Bas et au Luxembourg. Trois pays qui ont légalisé sous condition le geste euthanasique. Ils ont pris exactement la même définition que les trois. Quelle est-elle ? C'est l'acte par lequel un tiers met intentionnellement fin à la vie d'un malade à la demande de celui-ci. C'est un acte intentionnel de mettre fin à la vie d'un patient. Les trois pays ont précisé que ce tiers est exclusivement un médecin. On peut y revenir à la discussion, si vous le voulez, sur cette focalisation de l'acteur. Mais bon, c'est exclusivement un médecin. Et c'est pour ça que je parle de la relation médecin-malade. Le médecin va devoir consentir à la demande de son patient. Et donc, il doit faire un travail personnel, de conviction personnelle, que la demande du patient lui paraît légitime au regard de la loi et au regard de l'histoire que le patient présente. Parce qu'il y a des conditions, bien sûr, pour que ce geste euthanasique soit acceptable. L'euthanasie, si elle faisait l'objet d'une loi en France, elle ne serait pas autorisée comme ça sans condition. Elle serait dépénalisée sous condition, comme dans les pays du Benelux. Et donc, je vais faire référence à ce qui est l'expérience belge. Il faut des conditions. Il y a trois conditions essentielles et quelques conditions de forme de procédure. Les trois conditions essentielles sont que la personne fasse une demande claire, répétée, cohérente, argumentée, même s'il faut. Il faut que cette demande soit le fait d'une personne parfaitement compétente, sans pression extérieure. La deuxième condition essentielle, c'est que cette demande soit faite dans le cadre d'une souffrance constante et inapaisable. Dans le cadre, troisième condition, d'une maladie grave et incurable. Ce sont les trois conditions essentielles pour qu'une personne puisse faire une demande d'euthanasie qui soit entendue et admise par un médecin. Si ce médecin se rend compte que les trois conditions essentielles sont réunies, il va devoir obéir à toute une autre série de conditions, de formes et de procédures. Alors, pour aboutir éventuellement à un geste euthanasique. Quelles sont ces formes? Quelles sont ces conditions de forme et de procédure? La personne doit au moins l'écrire une fois. Elle doit le répéter oralement à plusieurs reprises, mais elle doit au moins l'écrire une fois en disant « je veux une euthanasie ». Elle doit le mettre par écrit. Ça doit être quelque chose de tout à fait obligatoire. Le médecin doit confronter la conviction qui vient de se faire en rencontrant à plusieurs reprises le malade à un confrère qui vient venir voir si effectivement les trois conditions essentielles sont bien remplies. Le médecin, indépendant du malade et indépendant du premier médecin, doit venir voir le patient examiner, consulter son dossier et faire un rapport comme quoi, en effet, les trois conditions essentielles sont bien remplies. C'est une première triangulation. C'est un premier échange entre plusieurs personnes pour considérer que le geste éventuellement sera légitime. Il y a une deuxième triangulation qui est obligatoire et qui est essentielle, évidemment, c'est que le médecin confère avec l'équipe soignante, informe l'équipe soignante qu'il y a une personne malade qui fait une demande d'euthanasie. Les équipes soignantes existent toujours, qu'elles soient à l'hôpital ou au domicile, dans les maladies qui s'annoncent et une fin de vie qui s'annonce. Il y a toujours des personnes intervenantes qui doivent évidemment être averties. Et puis troisièmement, la famille doit être évidemment impliquée. Sauf si le patient s'y oppose, dit la loi belge, parce qu'on peut estimer parfois que les conflits familiaux sont tels qu'on ne peut pas obliger absolument un patient qui fait une demande de ce genre d'impliquer sa famille, mais c'est excessivement rare. Je n'ai jamais vécu la situation où la famille ne puisse pas être avertie. Donc il y a quand même un échange un peu global avec l'entourage du patient vers une décision éventuellement qui va être prise au geste euthanasique. Je ne vais pas m'étendre sur les autres conditions, il y a encore des détails, mais ce n'est pas l'objet de l'exposé ce soir. C'est une loi qui permet aux patients d'avoir une parole qui est devenue libre. Il n'a plus à se méfier de la réaction du médecin s'il demande l'euthanasie, puisque c'est quelque chose qui est devenu possible. Et le médecin, maintenant, a, depuis 12 ans, la possibilité d'entendre, d'écouter cette demande. Autrefois, qui ne pouvait pas être entendu, puisque c'était considéré comme interdit si le médecin passait à l'acte comme un assassinat. Et donc, la grande majorité des confrères ignoraient ce genre de demande et la plupart des patients n'en parlaient pas, puisque c'était sans objet ou sans possibilité d'action. Maintenant, effectivement, il y a une parole qui est libre et une écoute qui est libre. J'aimerais bien terminer l'exposé rapidement par vous faire part de l'expérience de cet acte euthanasique. Parce que c'est bien dire les possibilités que la loi offre, d'en avoir fait la différence catégorique avec les deux autres conditions d'intervention médicale, puisque c'est une prérogative du patient exclusivement, je le répète. L'expérience montre que il commence à y avoir de plus en plus de personnes qui font des demandes d'euthanasie ou qui en parlent. Effectivement, la parole s'est libérée, on parle plus facilement de sa fin de vie. Mais une grande majorité des personnes qui prononcent le mot euthanasie ne veulent en vérité, en réalité, pas d'un acte euthanasique. Ils veulent qu'on fasse un traitement palliatif bien conduit. Ils veulent être assurés qu'on soulage leur souffrance et que jusqu'au bout, on les accompagnera. Quitte à ce qu'on fasse éventuellement une sédation de fin de vie, quand le moment sera venu, vraiment à la phase terminale, dans les derniers jours. Mais ils n'envisagent pas une vraie euthanasie. Et qu'est-ce que ça implique de la part du patient, une vraie euthanasie? Et c'est évident qu'il faut aborder le point avec les personnes malades qui parlent de leur fin de vie et qui évoquent éventuellement un geste euthanasique. Quand on en parle, on doit préciser tout de suite que si on s'engage dans un procédure d'euthanasie, c'est le malade qui décide, et le malade qui décide jusqu'au bout. C'est donc lui qui va décider son jour et son heure. Et donc, il doit savoir s'il en est capable. Et un bon nombre de patients, quand on parle de fin de vie accompagnée médicalement, disent « Ah non, c'est vous qui choisissez, docteur. Moi, je ne suis pas capable de choisir ça. » Alors, je leur réponds évidemment toujours « Alors, il n'est pas question d'euthanasie. Ce n'est jamais le docteur qui décidera à votre place. Sauf, bien sûr, si les circonstances font que la souffrance devient telle, je me répète, et que nous sommes vraiment en phase terminale, blablabla, on agira, évidemment. Mais décider d'un moment à la place du patient de dire que pour lui, c'est fini, c'est impossible de la part du soignant. Donc, pas mal de personnes pensent à un geste euthanasique parce qu'ils espèrent qu'un médecin sera là au moment voulu, lorsque la situation le nécessitera. Eh bien, ça, on peut s'y engager, évidemment. Comme on peut le faire avec la loi Leonetti, on peut le faire avec la loi belge indépendante de la loi sur l'euthanasie. Mais si le patient veut choisir son jour et son heure, eh bien, on se réfère à la loi sur l'euthanasie, alors. Mais c'est lui qui décide du début jusqu'à la fin. Et un certain nombre de patients vont choisir, effectivement, cette possibilité sans jamais l'appliquer. Ils savent qu'ils peuvent appeler leur médecin au moment venu. Ils ont fait les papiers, ils ont rencontré le second médecin qui a fait son rapport, ils ont tout fait sur le plan administratif et légal, tout est prêt. Ils savent qu'ils n'ont plus qu'à dire, à faire un signe, et ne le feront pas. Parce que rassurés du fait qu'ils peuvent le faire, ils peuvent affronter plus facilement leur fin de vie qui est peut-être moins pénible que celle qu'ils imaginaient, et puis ils s'éteignent, emportés par la maladie, un beau jour, sans avoir fait signe à leur médecin. Ça concerne facilement 30% des demandes. Par contre, un certain nombre iront jusqu'au bout. Pas mal de personnes pensent que c'est quelque chose d'invraisemblable, d'imaginer quelqu'un qui choisit sa mort. C'était un des arguments majeurs des opposants à la loi. Mais vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un réclame sa mort. D'ailleurs, l'argument des palliativistes, entre guillemets, c'est de dire si nous soulageons correctement les souffrances, les demandes disparaissent. Effectivement, un certain nombre disparaissent, effectivement. Mais pas toutes. Pas toutes. Il y a certaines personnes qui veulent vraiment maîtriser la fin de leur vie parce que les souffrances qu'on leur propose de soulager ne leur suffit pas à leur conserver un sens pour elles de continuer à vivre. C'est effectivement davantage qu'une souffrance physique qu'une souffrance psychique. Quelqu'un qui est vraiment au bout de son évolution d'une maladie grave, longue et grave comme un cancer, et qui est confiné au lit et qui n'a plus la force de s'engager dans quoi que ce soit qui lui donne encore du sens, peut demander à ce qu'on mette fin à ses jours. On l'aide à mettre fin à ses jours. Alors, lorsque ce patient a fait une rencontre d'un médecin qu'il a entendu et qui s'est engagé, parce que ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas facile pour un patient de rencontrer un médecin qui l'écoute et qui s'engage. La plupart des confrères disent « Oui, oui, c'est possible, en effet, la loi vous permet ça. Mais vous serez là, docteur. » « Ah non. » « Non, 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 ça, c'est pas mon affaire. » Alors, on change de docteur. Pas facile quand on est confiné au lit chez soi. On change de service hospitalier, parfois. C'est pas facile non plus de changer de service hospitalier ou d'institution hospitalière. Et donc, il faut rencontrer un médecin qui l'écoute et qui s'engage. Il s'engage à être là le moment venu. Ce n'est pas un acte qu'on délègue à un confrère non plus. Si on s'est engagé d'emblée en disant « Oui, vous êtes bien dans les conditions prévues par la loi », vous ne pouvez pas dire « Écoutez, on fera en sorte que quelqu'un sera là au moment venu. Et puis, quand le patient appelle, « Écoutez, je n'en peux plus. Est-ce que demain, ça peut arriver ? Oh, je ne suis pas là, je suis en vacances. Il faut que je confère ça à un confrère qui n'a pas du tout participé à la discussion ni à l'évaluation du problème. » Et c'est un possible à transférer. C'est impossible. Donc, il faut prendre ses responsabilités lorsqu'on s'engage. C'est un contrat entre deux personnes, un geste euthanasique. Mais lorsque le patient a trouvé un médecin qui est d'accord de l'accompagner, Je puis vous assurer qu'à ce moment-là, il entre dans un état de soulagement incroyable. Il entre dans un état d'apaisement et de sérénité qui est extraordinaire à vivre. C'est un véritable cadeau, ce qu'on lui donne quand on lui dit « d'accord, on sera là le moment venu ». Même si ça ne se fait pas à terme, hein, ça peut très bien jamais se faire. Mais le fait de dire que c'est possible a comme conséquence que la personne va entrer dans un état de sérénité incroyable et c'est lui qui va persuader sa famille, par ses arguments et par la manière dont il vit sa dernière phase, que cette décision est la bonne décision. Quand un patient n'entre pas dans cette phase de sérénité, je peux vous dire qu'on doit commencer à douter sur le bien fondé de la décision. Et il faut en rediscuter, il faut reprendre tout à zéro et se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Mais dans la toute grande majorité des cas, c'est une étape étonnante et positive que le patient va vivre jusqu'à la fin. Ça, c'est une première chose. Premier enseignement de l'application de la loi. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut évidemment impliquer la famille à temps. Heureusement, les demandes d'euthanasie ne se font plus au dernier moment comme on l'a vu au début de l'application de la loi. Maintenant, les personnes connaissent plus la loi, savent que c'est possible et donc on en parle suffisamment tôt, même parfois un an ou deux avant que la fin de vie s'annonce. Et dès lors, on peut en parler. Ce serait une erreur de dire on a toujours le temps d'en parler, on verra ça plus tard. Non, il faut saisir l'occasion immédiate de commencer à préparer les jalons parce que la famille doit être impliquée et celle-ci doit se préparer et doit pouvoir cheminer auprès du patient. Évidemment, les familles sont extrêmement diverses, les avis sont extrêmement variés. On peut avoir des réactions extrêmement hostiles, ne pas comprendre. Et c'est le patient qui va persuader sa famille du bien fondé de la décision. C'est lui qui est le meneur. Ce n'est pas le docteur qui décide, je le répète, c'est le patient lui-même. Ça, c'est une chose essentielle concernant la famille. Et puis, pour l'équipe soignante, c'est important qu'on s'arrête pour partager le sens de ce qu'on va faire. Il y a eu quelques décisions parfois un peu expéditives pour certaines équipes soignantes, et on a relaté ça dans les interrogations qu'on a faites. Quand la commission SICAR s'est promenée en Belgique et aux Pays-Bas, elle a rencontré toute une série d'acteurs et elle a rencontré des gens qui avaient très mal vécu dans les services hospitaliers des euthanasies parce que ces patients venaient du domicile et se faisaient euthanasier le lendemain de leur admission, alors que la procédure avait été évidemment bien accompagnée au domicile, mais que ça ne pouvait pas, pour raison X, Y, se faire chez eux. Ils venaient à l'hôpital se faire euthanasier aux grandes dames de l'équipe infirmière qui n'est pas du tout impliquée dans la procédure, évidemment. Je peux comprendre et admettre que ce soit très mal vécu. Et donc, il faut prendre le temps que l'équipe soignante comprenne et échange sur cette situation et sur cet acte, avant et après. Le troisième élément sur lequel je vais insister encore, c'est que je vous ai dit que c'est une décision du patient qui choisit son jour et son heure. C'est la prérogative, sa volonté, de son autonomie jusqu'au bout. Quelle est la différence entre une mort programmée comme celle-là par rapport aux autres dont j'ai parlé tout à l'heure? Les décisions d'arrêt de traitement sont des décisions programmées de fin de vie. Une euthanasie est évidemment une décision programmée de fin de vie. Quelle est la différence entre les deux? La différence essentielle et la spécificité d'un geste euthanasique, c'est que c'est une mort consciente. Les autres sont des morts inconscientes, sont des morts en sédation, sont des morts au bout du rouleau. L'euthanasie est une mort consciente, les yeux ouverts. Et ça se passe dans la sérénité la plus totale. Parce que la personne qui a fait ce choix de mourir n'a pas choisi entre la vie et la mort. Il choisit la manière de partir, puisqu'il est nécessairement à la fin de sa vie, ou il se trouve dans une situation qu'il considère sans issue. C'est ce que la loi prévoit, que la situation soit considérée comme sans issue. Et pour lui, donc, il n'y a plus de sens de poursuivre une vie qu'il ne veut plus suivre, et la décision d'une fin de vie est devenue pour lui opportune, comme le mot de M. Poyer, qui était président de votre association et qui a fait un livre qui a pour moi été révélateur. C'est à la lecture du livre de Jacques Poyer, qui s'appelait « La mort opportune ». C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur les possibilités d'euthanasie. J'ai compris ce que c'était, en lisant son livre, ce qu'était une euthanasie par rapport à toutes les autres morts que je côtoie dans mes services intensifs. Et donc, c'est une expérience qui permet d'être observé chez ces patients qui choisissent de mourir donc les yeux ouverts et sans stress. Le dernier moment donc étant venu, c'est un dernier rendez-vous qu'il faut bien sûr honorer. Le médecin vient au moment choisi par le patient. C'est un dernier rendez-vous que l'on partage avec la famille et les proches. On ne fait pas ça entre deux personnes. On engage, à moins que le patient veuille mourir seul. C'est tout à fait possible que pour lui, le geste soit intime et qu'il ne veuille personne autour de lui. C'est encore lui qui décide. Mais s'il désire avoir sa famille à côté de lui ou ses amis, voire trois générations, comme j'ai déjà vécu à plusieurs reprises, eh bien, nous nous retrouvons à 25 dans la chambre pour accompagner les derniers pas du patient, le dernier moment, dire le dernier au revoir, faire une véritable cérémonie d'adieu parfois. C'est donc, l'euthanasie est donc une mort programmée, une mort préparée, une mort partagée. L'expérience qu'on en a montre que ce partage est, dans la majorité des cas, bien vécu, entre guillemets, par l'entourage. Ils en sortent souvent renforcés, raffermis dans l'affrontement de la mort qu'ils ont constaté avec quelqu'un de leurs proches, en ce qui les concerne pour eux-mêmes ou en ce qui les concerne pour les autres membres de leur famille. Ce n'est pas toujours le cas. On doit bien admettre que ça peut être très mal vécu. Ça peut être très mal vécu, la personne qui est, comme on dirait, dans le couloir de la mort, attendant la fin de vie qui est projetée vendredi prochain, avec quelqu'un qui vient faire une véritable exécution. Ça peut être considéré comme tel. Je peux admettre personnellement qu'un observateur puisse trouver ça affreux, épouvantable, et employer ces mots-là. Ce n'est pas ce que je vis personnellement. Ce n'est pas ce que vivent la plupart de ceux que j'ai accompagnés de cette manière. Parce que, et ce sont les mots de la fin, si vous le voulez bien, la possibilité d'une mort consciente, d'un côté, et deuxièmement, d'une mort partagée, ce sont bien les deux conditions, je pense, qui permettent de penser que le geste euthanasique est un authentique geste d'humanisation de la mort, puisque c'est la conscience et le partage qui sont la caractéristique de notre espèce. Je vous remercie. Avez-vous des questions ?
Donc, ma question, c'est que, en fait, vous parlez de la perte de sens au moment de la fin de vie, et ça justifie l'euthanasie. Est-ce que j'ai bien compris ça ?
Et la perte du sens que peut donner le patient au prolongement de sa vie, à lui. C'est lui qui décide, c'est lui qui donne le sens. C'est pas le docteur, hein ?
Oui.
Ni la famille. Oui. Ni les proches, ni les soignants. C'est le malade qui s'exprime en disant « Docteur, je n'ai plus rien qui me justifie le fait que je continue à vivre. Rien qui... Je n'ai plus rien de possibilité de faire quelque chose qui ait encore du sens pour moi. » Ce sont les mots qu'ils emploient.
Oui, ça je comprends. Et cette question du sens, je crois qu'elle me pose un problème, puisque quand on peut observer les conditions de vie, des fois, dans certaines institutions... Il n'y a pas de sens à vivre. Je pense que le sens qu'on a à la fin de sa vie, il dépend des conditions dans lesquelles on vit sa fin de vie. Et la fin de vie, c'est une vraie question, je pense. Et dans ce cadre-là, je me dis, l'euthanasie, c'est un peu... Je me pose la question, quoi.
Alors, je vois bien poindre la critique qui ferait dire que nous allons éventuellement faire en sorte que les conditions de vie soient devenues épouvantables pour que les personnes réclament de mourir.
Mais même pas faire en sorte, mais bon, oui, mais si on s'en préoccupe pas...
Voilà. Il est évident, mais je parle bien des personnes qui sont dans une maladie grave et incurable, dans une souffrance constante et inapaisable. C'est dès lors qu'on s'est posé la question de savoir si effectivement ces souffrances étaient constantes et inapaisables, et effectivement si nous étions bien dans un cas de maladie grave et incurable, et donc que les conditions ont essayé d'être améliorées dans la possibilité où elles pouvaient l'être. Il est évident, et on ne peut pas se cacher, vous voyez la face, que dans les décisions, par exemple, de sédation de fin de vie, où on parle de souffrances dites réfractaires, elles dépendent beaucoup des conditions dans lesquelles la personne vit. Il est évident que si elle vit au domicile et qu'elle veut y rester, ou qu'elle vit dans une maison de repos et de soins avec un entourage professionnel adéquat, ou qu'elle est à l'hôpital dans un service de soins palliatifs, eh bien les conditions vont faire en sorte que les décisions médicales vont varier d'une à l'autre. Ça, c'est évident. Mais à chaque fois, nous devrons prendre les décisions en concertation avec la personne elle-même, de manière à ce que sa situation se passe au mieux pour elle.
Au début de votre exposé, vous avez parlé de personnes qui n'étaient plus conscientes et de personnes qui, par exemple, pouvaient cligner des yeux et sans être pour autant conscientes, si j'ai bien compris.
C'est la déficience d'état végétatif. C'est quelqu'un d'éveillé. Voilà. Et en clinique, nous sommes des cliniciens de base, comme je me définis souvent. Et donc, nous avons des déficiences extrêmement simples qui permettent d'avoir une capacité d'action. Un coma est une personne qui est impossible à être éveillée, quel que soit le stimulus, on ne parvient pas à l'éveiller. Elle est donc en coma, et comme elle est en coma, elle est donc inconsciente. Okay? Alors, l'état du coma est un état toujours transitoire. Il ne dure pas 2-3 semaines maximum. Les personnes qui survivent dans un coma finissent toujours par s'éveiller. Donc, elles sortent du coma. Puisqu'elles s'éveillent, elles ne sont plus en coma. Et quelle est la définition de l'éveil pour un clinicien? C'est l'ouverture des yeux. Quelqu'un qui ouvre les yeux, il s'éveille, il n'est plus en coma. Malheureusement, la pathologie fait qu'elle dissocie ce qui est impossible à éprouver normalement. Quand nous éveillons, nous sommes conscients. On ne pourrait pas imaginer être éveillé sans être conscient. Quand nous sortons du sommeil, nous éveillons, nous sommes conscients. Nous endormons, nous sommes inconscients. D'accord ? Quelqu'un qui est en pathologie cérébrale, lésion cérébrale, va s'éveiller en sortant du coma. Et malheureusement, ce n'est pas comme dans le sommeil. Généralement, pas toujours, il va entrer dans une phase d'état végétatif, c'est-à-dire d'inconscience. Malgré l'éveil, il est inconscient. Il reste inconscient. Il est donc dans un état végétatif. C'est un mot qui est critiqué pour l'instant. On essaie de trouver une autre étiquette en disant que c'est un état d'éveil non répondant. C'est comme ça qu'on devrait l'appeler, un état d'éveil non répondant. Quelqu'un avec lequel on n'a pas de communication et qui n'a pas de manifestation de conscience. Voilà. Alors, quelle était votre question ?
Donc, suite à ça, moi, je voulais savoir... Au jour d'aujourd'hui, est-ce que le monde médical est bien sûr de connaître la frontière, justement, entre quelqu'un qui est conscient et quelqu'un qui n'est plus conscient ? Parce que je pense qu'il y a 50 ans, on aurait dit que quelqu'un qui est dans le coma est inconscient, mais on sait bien aujourd'hui que ça, c'est pas tout à fait vrai non plus, puisqu'il y a des gens qui ont été dans le coma et qui étaient parfaitement conscients, qui se voyaient... Il y a plein de témoignages de gens qui sont quand même de bonne foi. Il y a bien un phénomène.
Non, vous avez raison. Hein, je ne vais pas critiquer ce que vous dites. Mais alors, ce ne sont plus les mots adéquats qu'on emploie. Quelqu'un qui est conscient n'est pas en coma. Ce n'est pas possible. Il faut utiliser les mots dans leur plein sens. Quelqu'un qui est en coma est nécessairement inconscient. Mais alors maintenant, ce que vous m'avez dit, est-ce qu'on parvient à faire la frontière nette entre quelqu'un qui est conscient et qui est inconscient? C'est vrai que ce n'est pas facile. On sait faire parfaitement la frontière entre quelqu'un qui est en coma et qui ne l'est plus. C'est l'éveil. C'est simple, ça. Il ouvre les yeux. OK? Mais quelqu'un qui n'ouvre pas les yeux, quelle que soit la stimulation qu'on fait, est nécessairement en coma et donc inconscient. Maintenant, dans l'état d'éveil non répondant, eh bien, il est évident que ces états, comme je vous ai dit, le coma est transitoire, ces états non répondants peuvent aussi être transitoires. Et donc, il y a des phases où il y a une évolution où la clinique peut être difficile. Enfin, la frontière entre le début de l'apparition de la conscience et puis les états de conscience vrais n'est pas facile à identifier. Ça, c'est vrai. Et donc, il faut toujours, toujours, toujours être méfiant lorsqu'on s'adresse ou qu'on s'occupe de patients dits inconscients. Il faut, dans mon service, en tout cas, c'est comme ça, et ce n'est pas dans le mien, ça, dans tous les services où on travaille correctement, c'est comme ça, on s'adresse au patient comme s'il était conscient, toujours. Parce que le clinicien peut très bien se tromper et ne pas faire attention à certains éléments qui montrent que le patient n'est plus en coma, qu'il est éveillé et qu'il est en plus conscient. Ça arrive très souvent, ça, et vous avez raison de dire que ce n'est pas toujours facile à bien délimiter. Maintenant, lorsque nous arrivons à des décisions de fin de vie, il est évident que nous devons accumuler dans notre expérience et dans nos raisonnements toutes les données médicales qui peuvent encore évoluer dans les années prochaines et qu'il faut donc tenir compte de ça. Lorsque nous décidons qu'un état est irréversible, il faut rester prudent, il faut rester modeste. Les médecins peuvent évidemment se tromper, même quand ils sont sûrs d'eux. Je vous dis tantôt, le médecin ne détient pas la vérité. Il doit souvent se donner du temps pour vérifier que ce qu'il dit s'avère vrai. Et en termes de lésions neurologiques, il faut être extrêmement prudent dans nos pronostics. C'est vrai, toujours. Mais malheureusement, il existe bel et bien des états végétatifs définitifs. Il existe bel et bien des patients cérébralisés qui n'ont pas d'espoir de récupération. Ça, ça existe. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Oui.
Et vous avez raison de dire qu'il faut être prudent. Ça m'est arrivé hein, de dire à une famille, vous savez, il n'y a plus d'espoir. Il va mourir, on a fait tout ce qu'on a pu et ça ne va pas aller. Ça m'est arrivé. Et puis de dire, on ne va pas arrêter le respirateur aujourd'hui, on va attendre un peu, hein, on va attendre un peu que cette annonce, vous la digériez un peu, on ne va pas tout de suite se laisser tomber les bras, on va se donner quelques jours. Et heureusement, parce que je songe à un patient pour lequel j'étais convaincu qu'il allait mourir, et il est venu me redire bonjour, ses deux jambes, hein, parlant tout à fait correctement, donc je ne raconterai pas l'histoire des détails, mais c'est une histoire invraisemblable. Et ça existe, ça, oui, tout à fait. Ça existe.
Quelle différence faites-vous entre le geste euthanasique tel que vous nous l'avez décrit et le suicide médicalement assisté?
Alors, il n'y a pas de... C'est une excellente question. Hein. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre le suicide assisté et l'euthanasie tel que la loi des Benelux le définit. J'aimerais bien que vous repartiez aussi avec cette idée balayée de faire une distinction entre le suicide assisté et l'euthanasie. Le suicide assisté, effectivement, est permis dans certains pays qui interdisent l'euthanasie. Et dès lors, il faut malheureusement continuer à faire la distinction. Qu'est-ce qui se passe en Suisse où on permet, où on tolère le suicide assisté et dans quelques États des États-Unis, l'Oregon, le Montana, Washington, le quatrième, je ne sais déjà plus, c'est qu'on permet la prescription d'une solution de médicaments, de barbiturique en l'occurrence, que la personne va aller chercher ou va se faire fournir par le pharmacien et conserver chez elle et boire au moment voulu. Bien qu'en Suisse, ce n'est pas comme ça, puisque c'est un rendez-vous fait avec une association bénévole qui fournit la solution à la personne au moment où ils l'ont choisi. En États-Unis, la personne a sa solution chez elle et il le prend et l'absorbe quand il le veut. Ce qui veut dire évidemment que il y a à peu près 70 cas par an en Oregon qui bénéficient entre guillemets de la prescription d'une solution barbiturique qui sont les 70 cas. Vous aviez compris la langue étrangère. Les 70 cas, il y en a 45 à 50 qui l'absorbent effectivement. Ça s'appelle un suicide assisté, un médicament assisté. Quoique le médecin n'est pas là pour assister le patient, il fait la prescription. En Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, l'euthanasie est admise sous les conditions que je vous ai dites. La loi ne prévoit pas la manière d'administrer la solution létale. Elle peut s'administrer par voie orale comme par voie veineuse. On pourrait imaginer d'autres routes, hein ? On pourrait imaginer d'autres routes. Mais enfin, le plus simple, c'est quand même la voie orale ou la voie veineuse. C'est encore le patient qui doit choisir la manière dont il préfère que ça se passe. Mais c'est tout aussi la même chose d'apporter une solution barbiturique par voie veineuse ou par voie orale. Le patient peut ouvrir le robinet lui-même, peut boire lui-même, peut faire ce qu'il veut lui-même. C'est comme ça, c'est lui qui choisit le moment où on intervient. Et donc, l'euthanasie est bel et bien un suicide assisté. Mais pour ceux que fait peur le mot euthanasie, on ne devrait malheureusement pas utiliser le mot suicide. Parce que le mot suicide recouvre en fait des actes qui sont tout à fait différents d'un accompagnement médical bien conduit, dans la sérénité et l'apaisement et dans le partage. Un suicide, c'est souvent dans un raptus anxieux, violent, dissimulé, caché et qui donne lieu à toujours un stress majeur pour ceux qui restent. C'est un déchirement épouvantable. Alors qu'une assistance au décès, c'est comme ça qu'il faudrait l'appeler, une assistance au décès telle que le permet certains États américains, la Suisse et le Benelux, sont des choses qui n'ont rien à voir avec le suicide.
Question subsidiaire, qu'est-ce qui, selon vous, rend nécessaire la présence du médecin ? Je ne parle pas du processus de délivrance.
Alors, c'est vrai que c'est une critique de certaines personnes de dire pourquoi est-ce que la personne malade qui veut exercer sa volonté jusqu'au bout, qu'on fasse un effet, effectivement, comme en Oregon ou comme en Suisse, qu'on lui fournisse quelque chose à boire et puis qu'il se débrouille tout seul. Les lois du Benelux qui permettent l'intervention médicale, me semble-t-il, vont jusqu'au bout du raisonnement et permettent une intervention médicale adéquate. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un accompagnement qui est bon qu'il soit fait avec un professionnel qui veille à ce que les choses se passent bien. Bon, habituellement, quand on boit sa perfusion, sa solution, ça se passe bien, mais de temps à autre, la personne régurgite ou vomit, ou bien la posologie est peut-être inefficace et la personne dort et n'arrête jamais de respirer. Et donc, il faut que le médecin puisse intervenir dans ces conditions-là pour que la procédure ne dure pas 24, 36 heures. Ce sont des cas qui sont rapportés aussi bien en Suisse qu'en Oregon. Et dans mon expérience, les solutions barbituriques apportent effectivement un décès qui se passe dans la demi-heure, doucement. C'est parfois le souhait des personnes de ne pas mourir brutalement comme après une anesthésie générale. L'euthanasie, c'est une anesthésie générale, et vous savez qu'une anesthésie générale, ça se passe en quelques secondes. Donc ça peut être ressenti, pas par le malade qui ne se rend plus compte de rien, mais par les témoins, comme quelque chose de trop rapide. Et donc, après discussion, on peut opter pour la voie orale. Mais dans certains cas, on a attendu 2 heures avant que je finisse par injecter quelque chose pour que ça s'arrête. Puisque, on avait accompagné suffisamment. Et donc, de nouveau, le suicide assisté n'a plus... Faire une distinction entre suicide assisté et euthanasie dans ce cas-là est encore plus absurde, puisque le médecin est encore là pour injecter une substance supplémentaire. Donc, je pense que le médecin qui s'engage honore un dernier rendez-vous et un contrat de solidarité essentiel. Parce que ceux qui opposent l'exercice de l'autonomie au fait d'impliquer un tiers comme un médecin qui normalement n'a pas ce rôle à jouer pour eux et que tout compte fait, pourquoi est-ce que je suis impliqué dans cette histoire puisque le patient c'est lui qui décide. L'exercice de l'autonomie poussé jusqu'au bout, c'est la solitude. Et je pense que ceux qui veulent imposer ça à leurs malades, je pense, font fausse route. Je pense que honorer son dernier rendez-vous est quelque chose, par contre, qui peut être une expérience aussi enrichissante pour le médecin. Je dis qu'il peut être aussi enrichissant pour le médecin. Pas toujours. Pas toujours. Mais qui peut l'être. Encore d'autres questions ?
Dans votre propos, le départ programmé, partagé, conscient, si j'ai bien compris, vous le réservez à des personnes qui sont déjà en grande difficulté, en grande souffrance physique. Est-ce à dire qu'on ne peut pas appliquer ce dispositif aussi à des personnes qui ne sont pas dans cette situation, mais qui, du fait de l'âge, considèrent qu'elles ont assez vécu et que ce que leur offre la vie à ce moment-là n'a plus de sens pour elles, et que, par exemple, une perte d'autonomie progressive les amène à considérer qu'il faut mieux s'arrêter à ce moment-là.
Alors, les lois du Benelux prévoient que la souffrance doit être consciente et inapaisable. Elle peut être physique ou psychique. La maladie incurable peut être une maladie résultant d'un accident ou d'une maladie, ou d'une affection. Alors,
c'est-à-dire qu'il faut être dans ces deux cas-là pour pouvoir bénéficier, si je puis dire, de ce dispositif.
Alors, la personne de très grand âge qui est en fatigue existentielle, comme on dit, n'est pas objectivement dans les conditions prévues par la loi. Effectivement, il faut qu'il y ait une maladie grave et incurable, il faut qu'il y ait une souffrance constante et inapaisable. Mais, et c'est peut-être une des critiques que ceux qui sont opposés à la loi font à la pratique médicale belge-hollandaise, c'est qu'on a admis dans la pratique que les personnes âgées qui ont des situations d'handicap divers, pris isolément, ne sont pas quelque chose à considérer comme grave et incurable essentiellement, mais pris en les additionnant les unes aux autres, peut faire en sorte que ces personnes se trouvent effectivement et objectivement dans une situation sans issue, qui ne peut pas être améliorée. Et dès lors, on accepte certaines déclarations d'euthanasie qui concernent ces personnes au grand âge qui sont devenues aveugles, sourdes, qui ne savent plus se déplacer, qui dépendent de tout un chacun pour faire leurs soins corporels. Et on peut admettre que dans ces cas-là, la souffrance psychique, là, sur leur défaillance physique est devenue telle que l'euthanasie peut être acceptée. Mais évidemment, c'est à juger au cas par cas. Vous faites bien de préciser une question de ce genre, parce qu'en réalité, l'euthanasie concerne pour 80% des patients qui sont atteints de maladies cancéreuses. Les 20% restants se répartissent sur toutes les autres maladies. Ça veut dire que quelqu'un qui a une maladie grave et incurable comme un cancer obtient plus facilement une euthanasie que celle qui n'a pas cette étiquette favorable. C'est une première réponse, première remarque. Deuxième remarque, c'est que les personnes très âgées demandent peu l'euthanasie et quand elles la demandent, sont moins entendues que les autres. Le nombre d'euthanasies est plus important dans le groupe d'âge entre 50 et 75 ans. C'est là le pic d'euthanasie, entre 50 et 75 ans, excusez-moi. Il y a des difficultés. Or, à plus de 50% des patients, des personnes qui décèdent dans nos pays, le font après 80 ans. Hein. la moitié d'entre nous, on peut espérer vivre plus de 80 ans. Et au-delà de 80 ans, le pourcentage d'euthanasie s'effondre. Voilà une deuxième remarque. Effectivement, je pense qu'il est observé partout que les personnes très âgées demandent peu l'euthanasie.
Bonsoir. Merci pour toutes ces lumières que vous nous apportez ce soir. La fin de vie, il paraît que c'est aussi la lumière au bout du tunnel, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup de théories là-dessus. Je fais partie des gens, je pense aussi, il y en a d'autres, qui savent maintenant qu'il y a moins d'années à vivre devant que celles passées derrière. Et donc, on s'interroge sur la mort. Enfin, moi, je m'interroge, bien sûr. Il paraît qu'on est conscient déjà de la mort dès l'âge de 6 ans, je crois, dans cette zone-là. Et je sais, par contre, ce que je ne voudrais pas pour ma mort. Je ne voudrais pas mourir à l'hôpital. Je ne voudrais pas mourir dans le coma après un AVC, des choses comme ça. Alors si toutefois cette situation se présentait, sans mon aval, vous avez dit que le médecin, la famille, tout ça, et la volonté exprimée par le malade avant, peuvent donc aller vers l'euthanasie. Bon, enfin, je ne sais pas. Et moi, la question, donc, si quelqu'un doit m'aider à mourir, j'aimerais autant que ça ne soit pas un médecin. Je trouve que le médecin, il a autre chose à foutre que de faire mourir les gens. Son rôle, c'est de soigner les gens. Alors, je ne vois pas pourquoi la loi oblige que ce soit un médecin, que le médecin donne son verdict, comme on donne un contrôle technique sur une voiture pour dire elle est foutue ou pas. Mais pourquoi pas pouvoir avoir le droit, avant sa mort, de déléguer quelqu'un, de ses amis, de ses proches, pour aider, dans le cas où on ne puisse pas le faire soi-même, à l'acte décisif. Est-ce que c'est possible ?
Mais je ne sais pas ce que la loi française fera dans l'avenir, si elle est réformée ou s'il y a une nouvelle loi qui est édictée prochainement, je ne sais pas. J'imagine que cette loi ne sera pas très différente de celle qui existe dans les pays du Benelux. Il y a une loi qui a failli être votée au Québec, par exemple, récemment, sur une dépénalisation conditionnelle d'euthanasie. Elle était extrêmement bien calquée sur celle qui existe dans les trois pays du Benelux. Donc j'imagine que ce sera la même chose ici en France. D'abord, pour préciser votre propos au départ, actuellement, la loi Leonetti permet que si vous êtes dans un état de délabrement cérébral important et que vous avez fait des déclarations anticipées, écrites pour bien faire, mais même oral à vos proches, à vos référents familiaux naturels, ceux-ci peuvent informer l'équipe soignante et les médecins qui vous ont pris en charge de votre volonté préalablement exprimée, de faire en sorte de ne pas prolonger inutilement votre vie dans ces conditions-là, et on peut faire un traitement de confort en arrêtant tout acharnement. C'est ça qu'on peut faire. Et si, malheureusement, vous êtes dans un état de délabrement cérébral tel que arrêter tout traitement invasif fait que votre fin de vie est précipitée, là, c'est parfaitement accepté par la loi actuelle de vous accompagner avec des médicaments s'il le faut pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours parfaitement bien appliqué, mais les principes sont parfaitement bien admis par la loi Leonetti. Vous ne pouvez pas réclamer d'euthanasie. Vous ne pouvez pas réclamer, parce que la loi française ne l'admet pas, mais même si vous étiez en Belgique, vous ne pouvez pas dire « je veux une euthanasie dans ces cas-là » parce que vous devez être capable de la demander. Sauf, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a une possibilité en Belgique et en Hollande aussi qui permet d'obtenir une euthanasie si on est dans un état d'inconscience irréversible. Si par accident ou par maladie, on est devenu inconscient irréversiblement, on peut avoir fait une déclaration anticipée d'euthanasie et bénéficier d'un geste euthanasique dans ces conditions-là. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit au début de l'exposé ? Si quelqu'un est dans un inconscient irréversible dans sa vie intensive, la loi Leonetti est suffisante pour appliquer les décisions d'arrêt de traitement. Il n'y a pas besoin de loi d'euthanasie pour ça. Mais peut-être que si vous avez fait une déclaration anticipée d'euthanasie en Belgique, vous aurez peut-être plus facilement l'application de cette décision, puisque ça va peut-être obtenir le consentement familial plus facilement. Oui, mais ce n'est pas indispensable. Par contre, vous êtes avec un accident vasculaire cérébral, vous n'avez plus parlé, vous ne savez plus communiquer, mais vous êtes toujours conscient, vous êtes en Belgique, vous ne pouvez pas avoir d'euthanasie. Si vous n'êtes pas capable de communiquer votre demande, vous ne l'obtiendrez pas, vous n'êtes pas inconscient irréversiblement. Vous ne l'aurez pas. Bon, la communication, ça peut très bien se faire autrement que par voie orale, vous pouvez peut-être l'écrire ou communiquer autrement, mais malheureusement, si vous n'êtes pas capable de la demander, vous ne l'aurez pas. D'accord ? Bon, c'est heureusement des cas quand même exceptionnels, hein. Heureusement. Bien, alors vous demandiez pourquoi le médecin doit intervenir maintenant. Je comprends votre désir de ne pas mourir à l'hôpital. Je le partage volontiers. Mais s'il faut l'intervention d'un tiers pour que les choses se passent bien, y compris dans un geste, et surtout dans un geste euthanasique, je pense que la compétence, elle se trouve plus facilement chez un docteur que dans toute autre profession. Et qu'il est normal dès lors que la loi ait permis ce geste qui reste controversé, qui reste critiqué, qui reste scandaleux pour pas mal de personnes et qui le confie à une profession particulière. Parce que s'il fallait, en plus de la loi, dire que dans tel cas l'époux pourrait le faire ou tel cas l'ami le plus cher pourrait intervenir, ça paraît pas possible, ça, d'envisager toutes ces possibilités. Donc je pense qu'il est normal et de bon sens, malheureusement, même si vous pensez le contraire, que ce soit d'un docteur qui intervienne.
Merci. Oui, je voudrais revenir sur la loi Leonetti en la schématisant. Elle interdit l'euthanasie, mais de l'autre côté, elle permet qu'on puisse attaquer un médecin lorsqu'on considère qu'il fait de l'acharnement thérapeutique. Mais la loi ne précise pas où commence l'acharnement thérapeutique. Donc comment faire ? Bon, moi, je vous précise qu'il y a 15 mois, on a été obligé, pour mon épouse, de choisir l'euthanasie. Il a été fait dans un petit hôpital en France. Donc, d'une manière illégale, hein. Toute la famille s'est réunie avec les trois médecins, puisque c'était mon épouse qui était encore consciente, on lui avait fait faire un scanner cérébral une semaine avant, donc il n'y avait aucun problème. Et ce choix-là, donc, s'est fait en famille, avec les trois médecins, et c'est par la morphine, puisqu'elle était à son troisième cancer. Et celui-là, il n'y avait plus de possibilité de chimio et de rayons. Donc je reviens à la loi Leonetti. Où commence l'acharnement thérapeutique ?
Il n'y a pas de définition claire de ce qu'est l'acharnement thérapeutique. Il doit se discuter individuellement. L'acharnement est une obstination déraisonnable qui consiste à poursuivre des traitements de manière aveugle et sans possibilité de récupération et sans idée d'amélioration de l'état du patient. C'est ça l'acharnement. Maintenant, c'est une définition générale. Personne n'est pour l'acharnement et tout le monde maintenant admet bien qu'il y a des frontières à ne pas dépasser. Le problème, c'est de définir la frontière individuellement. Qu'est-ce que c'est l'acharnement pour monsieur un tel ou madame une telle qui est soumise à des conditions particulières suite à une évolution de la maladie XY? C'est quelque chose dont il faut aussi bien comprendre l'importance. De nouveau, il faut faire une individualisation des traitements, une personnalisation des stratégies thérapeutiques en fonction d'un raisonnement qu'on doit tenir avec le patient quand il est capable de parler, de s'exprimer, de communiquer, et ou avec son entourage quand celui-ci n'est plus capable de le faire. Et on doit définir ce qu'est l'acharnement pour telle personne, ce qui ne sera pas la même chose pour son voisin. Et donc, on varie les décisions en fonction de l'échelle de valeur que les patients présentent et nous communiquent. Un patient pulmonaire chronique aboutissant à une insuffisance respiratoire majeure nécessitant l'appareillage peut très bien dire, pour moi, l'acharnement, c'est l'intubation et la mise au respirateur. Je ne veux pas aller jusque-là. Son voisin réclamera une trachéotomie, il réclamera de rentrer chez lui avec un petit respirateur. Où est l'acharnement ? Eh bien, pour lui, pour monsieur A, c'est l'intubation. Pour monsieur B, c'est d'aller jusqu'à la trachéotomie et de retour au domicile avec un petit respirateur. Pour lui, ce n'est pas de l'acharnement. Et donc, on fera en sorte de suivre les volontés des patients. Donc, ça se discute tout le temps. Et c'est ça qui est un peu effrayant. Effectivement, dans les prérogatives que les médecins s'arrogent habituellement, c'est qu'ils doivent tout le temps, maintenant, négocier, entre guillemets, leurs décisions avec le patient lui-même ou avec les représentants familiaux. C'est souvent fastidieux, c'est chronophage, comme on dit, c'est consommateur de temps, alors qu'on manque souvent de disponibilité dans les hôpitaux ou en dehors de ceux-ci. Mais ça me paraît essentiel pour qu'on maintienne une qualité de relation, une qualité de travail, une qualité de service qu'on rend aux patients. Ça me paraît essentiel. Je répète, le médecin ne détient pas la vérité.
Bonsoir. Merci d'être venu de Belgique et merci pour votre accent et vos septantes que je trouve beaucoup plus pratiques à utiliser que les systèmes français d'octantes et nonantes. Vous dites que le médecin n'a pas la vérité. Je veux bien l'entendre, mais dans les pratiques, des fois, je me demande si c'est ça. Jean-Luc, tout à l'heure, vous a posé une question en disant est-ce que ça pourrait être une autre personne que le médecin ? Mais une personne extérieure, parce que c'est vrai que j'ai une belle-sœur qui est chirurgien, c'est pas à elle que je vais demander d'intervenir parce qu'elle n'aura pas le même recul pour peut-être certaines interventions, ni à une compagne, une épouse, etc. Mais ça pourrait être quelqu'un qui est spécialisé peut-être en psychologie ou en relation qui pourrait remplacer un médecin. Je pose la question. Moi, le mois dernier, j'ai passé 12 jours à l'hôpital. Et par rapport à la relation au médecin, entretien préalable avec l'anesthésiste, la dame. Je croyais correct en lui disant madame, madame, et au bout d'un moment, elle me reprend en disant docteur, appelez-moi docteur. Et le médecin chirurgien qui m'a opéré, on parlait de sa collègue qui était venue, et il me reprend en disant docteur, appelez-la docteur aussi. Et je pense aussi à une infirmière, une élève infirmière, Amandine, elle n'est pas là ce soir, qui était donc à 20 ans à faire, ou 22 ans, je ne vais pas demander son âge, à faire un stage en service gériatrique, je crois, et qui a fait son rapport de stage sur fin de vie, acharnement ou je ne sais plus trop quoi. Cette fille, elle a vraiment été brassée par une rencontre avec une dame âgée qui demandait à débrancher. Et cette infirmière, qui était a priori neutre, peut-être à 20-22 ans, sûrement très sensible, de dire, mais on n'écoute pas cette femme-là. Et moi, j'ai quand même l'impression que les médecins, en général, mais je ne veux pas généraliser trop quand même, ont quand même tendance à dire, attendez, j'ai quand même des diplômes ou une formation qui fait que c'est quand même plutôt mon avis dont vous devriez tenir compte. Mais avec ma déformation à l'école, je vais peut-être avoir aussi tendance à imposer ma façon de voir le jardinage ou l'agriculture, etc. Donc peut-être qu'il faudrait envisager des duos. Alors ça coûte plus cher d'avoir deux professionnels, mais pas que la voix d'un médecin. Parce que ça pèse. Et quand on est dans l'hôpital, dans le lit, on n'est pas au même niveau, surtout quand on est couché, de l'équipe d'internes et de médecins qui arrivent pour 5 ou 3 minutes de visite, parce que c'est vrai qu'ils ont plein de boulot et qu'ils ne peuvent pas rester plus. Mais
je vous entends bien, mais je n'ai pas grand-chose comme commentaire à vous faire. Je sais, mais c'est la réalité que je vis aussi dans mes hôpitaux. Hein, c'est la même chose. Hein. Bon, je crois que l'application de la loi sur l'euthanasie en Belgique est l'occasion de perturber de manière majeure les équipes soignantes qui se rendent compte tout d'un coup que ce n'est pas eux qui tiennent le gouvernail, c'est le malade, c'est la personne malade. Et c'est un bel exemple de respect de l'autonomie du patient que d'aller jusqu'à un geste euthanasique qu'on accomplit dans un service hospitalier. Je vous assure que les premiers cas qui sont réalisés constituent à chaque fois une petite révolution. Et une fois qu'on a fait une euthanasie, eh bien on se rend compte que l'équipe soignante se met davantage à écouter les patients ultérieurs. Ils font davantage appel aux soins palliatifs. Ils font davantage appel à la famille, écouter ce que les gens leur disent. Et c'est vrai qu'il y a encore un long chemin à faire dans les services hospitaliers pour que les patients ne soient pas considérés comme des personnes à la merci ou comme des objets qu'on soigne et pas des personnes qu'on doit considérer comme des partenaires de soins. Il y a encore un chemin à faire, très long chemin, et malheureusement, il n'est jamais accompli définitivement. Il faut tout recommencer à chaque fois. Alors, l'expérience que vous avez avec une dame anesthésiste qui réclame qu'on l'appelle docteur, ben oui, c'est vrai. Peut-être qu'on appelle plus facilement un docteur un chirurgien qu'une dame anesthésiste et que ça l'énerve aussi, peut-être, je ne sais pas.
Oui, bonsoir. Que faire devant un médecin qui refuse de discuter de ce problème, en fin de compte ? Il m'a dit, moi, ce n'est pas mon problème, médecin de famille, hein.
Ça arrive souvent, hein. Ça arrive très souvent, ce n'est pas mon problème. Oui. C'est une phrase que j'entends souvent de la part de mes confrères. Pourquoi réclame-t-il l'euthanasie ? Puisque de toute façon, il va mourir. Oui. Ça, c'est le genre de réflexion qu'on entend. Ou bien, s'il veut mourir, ben, il n'a qu'à se suicider, ce n'est pas mon problème. Hein. Et donc, ben oui, que peut-on faire ? En tant que toubib, c'est lui montrer l'exemple que les choses peuvent se passer autrement. Et en tant que malade, c'est de trouver un autre docteur. Mais il n'y a pas d'autre solution.
C'est ce que je vais faire.
Si quelqu'un veut un livre.
Madame Massonneau, qui est députée, elle l'a proposé. Elle a été déposée, hein, la loi. Oui, mais elle n'est pas votée, bien sûr. Ben, de toute façon. Oui, mais le président Hollande avait quand même, dans sa campagne électorale, c'était la proposition 21, il avait dit qu'il réformerait la loi sur la fin de vie et la loi Leonetti. Il y a quand même eu l'avis du jury citoyen qui a été donné en décembre 2013 et qui dit qu'il faut autoriser le suicide assisté, qu'il faut modifier la loi en ce qui concerne les directives anticipées et les rendre contraignantes. Il y a eu toutes ces propositions et le comité consultatif national d'éthique devait donner son avis à la mi-février, mais nous sommes début avril et il ne l'a toujours pas donné. Alors nous attendons. On nous a promis une loi. On espère. Donc, si vous voulez vous procurer un livre et le faire dédicacer par M. Damas, c'est le moment, parce que ça ne va pas durer. Merci. On vous remercie, M. Damas, pour cette excellente conférence.